Radio G 101.5 FM.
Le manche disque. L'émission qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. À 33 tours minutes.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. C'est le manche disque sur le 101.5 de Radio G. Un lundi sur deux, un lundi soir, tard dans la nuit, 23h minuit, vous êtes confinés ou en couvre-feu depuis très longtemps, mais nous sommes là pour vous nourrir les oreilles, vous évader un petit peu, vous faire vous évader musicalement avec nos humbles collections de disques vinyles que l'on vous propose un lundi sur deux, donc de vous faire découvrir une fois de plus, une 32e fois, nous sommes toujours là, tant qu'on ne nous verra pas, on sera là de toute façon. Donc 32e émission qui débute sur un morceau bien français, bien de chez nous, mais pour autant dans la fusion du jazz et du rock. Je vous en parle un petit peu plus tout à l'heure, juste après. vent de l'esprit souffle où il veut, c'est l'album de Nadavati, une formation française des années 70. Très exactement, cet album, il est sorti en 1978, composé par Jacques Lyot notamment, et donc entouré par un certain nombre d'artistes qui se sont consacrés à cette fusion jazz-rock que je vous annonçais en introduction. Voilà, un album dont le titre peut nous évoquer quelque chose en ces temps de confinement éventuel, de couvre-feu successif. Voilà, parce qu'il faut vous avouer qu'on est, on n'est pas en direct, donc nous n'avons pas à ce jour encore les annonces gouvernementales, les dernières, mais ça sent pas bon, en tout cas de là où on est, hein, n'est-ce pas Julien? Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, je pense qu'il faut s'attendre effectivement à passer de longues heures chez soi à écouter la radio.
Ouais. Salut hein, au passage, hein, oui. Parce que c'est vrai qu'on ne s'est bonjour, pas dit bonjour, bonjour en intro, mais voilà, on dit bonjour aux auditeurs et tout. Et donc, pour ce vent d'esprit, cet esprit qui souffle, pardon, où il veut, eh bien, le morceau qu'on s'est écouté, c'était la valse du fou. Voilà, parce qu'un petit peu de folie dans ces temps très, très, très rationnellement scientifiques, ça fait pas de mal. Et qu'est-ce qu'on va s'écouter maintenant, mon cher Julien?
Eh bien, un petit EP, un EP d'une nouvelle formation qui s'appelle Serpent. Et qui compte dans ses rangs Mathieu Lescope, qu'on a déjà entendu en tant que frontman et chanteur d'Asile, un groupe rochelais qui avait percé un petit peu, hein, qui avait fait enregistrer deux albums notamment. Et puis après qu'on a entendu dans sa carrière solo, Lescope, c'est deux albums, c'est une nomination aux Victoires de la Musique, ou je sais plus, enfin en vrai je crois que c'est ça. Et puis pas mal de scènes avec donc cette espèce d'électro un peu sombre à la Daniel Dark, à la Étienne Dao, très 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 bien produite avec des sons très ciselés. Donc il a fait deux albums hein, sous ce pseudo-là, on va dire, en solo. Et puis là, il est dans une formation avec quatre autres gars et ça s'appelle donc Serpent. Ils ont proposé un premier EP en attendant l'album, un EP que je vous conseille et dont on va écouter tout de suite le titre Don't Think Twice.
En 45 tours, hein, si je ne m'abuse.
Oui, exactement. That clever. Serpent, donc sur le manche disque Radio G 101.5, le projet anglophone cette fois de Mathieu Le Scop.
Ouais, pas mal du tout. Hein. Ça nous a bien réveillé là.
De funk froid, cold funk ou un truc du genre quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça rappelle peut-être un peu les Talking Heads ou.
Ouais, Talking Heads, certaines ratios.
Plus récemment, Pottery aussi.
Oui, Pottery.
Moi, ça m'a fait penser aussi un petit peu à Pottery.
C'est vrai.
Ce fameux groupe qu'on a découvert, tu te rappelles, à l'époque, on pouvait faire des festivals.
Oh là là, on avait croisé des gens, oui.
Oh là là, on était tout prêts. tout prêts, on n'avait même pas de masque. N'importe quoi. On a failli choper un rhume ce jour-là.
C'était le beau temps.
Et puis en plus,
enfin, le beau temps, ouais.
Il pleuvait pas mal, hein. Ouais. C'était bon, bref, tout ça, c'est des souvenirs. Voilà, on s'évade, on s'égare. Écoute, on parle de live. Voilà, j'ai trouvé ma transition puisque c'est un live que je vais vous faire écouter.
Ah,
alors vraiment, une fois n'est pas coutume avec moi parce que je suis pas très live dans la vie, mais voilà, je suis tombé sur ce live d'Esther Phillips, qui est une artiste que j'apprécie énormément, une artiste que je trouve extrêmement sous-cotée par rapport à son style, par rapport à sa tessiture vocale, par rapport à son côté unique, mais une artiste parmi tant d'autres qui a un petit peu saboté sa carrière complètement avec des drogues, etc., et une mort prématurée. Et puis aussi, elle a aussi saboté sa carrière. Alors, je pense que les addictions n'ont pas aidé, et puis les creux de la vague dépressive certainement, mais elle a aussi saboté à mon sens la fin de sa carrière en prenant un petit peu trop rapidement, je trouve, la vague disco, et en faisant quand même des tubes. Alors, ça l'a certainement enrichi, mais effectivement, du coup, peut-être que ça a un petit peu discrédité un peu son œuvre, ça l'a rendu un peu plus commerciale, voilà, alors que si peut-être elle était restée plus proche de ses racines soul, blues, rhythm and blues, eh bien peut-être que ça l'aurait fait. En tout cas, je vous propose un morceau qui s'appelle One Night Affair, qui date de 75, de son album justement What a Difference a Day Makes, qui a été un de ses tubes justement dont je parle là. Et c'est un live qui a été enregistré à Hambourg en 1978, donc 3 ans après la parution de ce titre sur cet album. Et je vous propose donc de découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, Esther Phillips. Vous allez voir sa voix, une fois que vous l'aurez entendue, vous ne pourrez plus la confondre. Thank you.
Just I may not see me no more. All I want is a one night affair. Be all right. One night affair. Let's go to mine. Hit and run. Hey, son of a gun. Hit and run. I don't wanna love nobody, and I don't wanna study things. I ain't ready to be tired. Now I know you've been lonely too.
Et c'était le petit brown acid bimensuel avec un morceau du groupe Sweet Crystal. Le morceau s'appelle Warlords et ça date de 1977.
Yes. Donc un brown acid de plus, c'était quel volume celui-là ?
C'était le volume 2.
Ok. Donc il en reste combien ?
Il y en a 11. Je sais plus trop.
Oh, on a perdu le compte.
Ouais, je les mets dans le désordre.
C'est
en plus,
c'est un petit peu pareil. Mais tant mieux. Et plus il y en aura. Et puis quand ils seront tous passés, on passera des morceaux, des deuxièmes morceaux de chaque volume avec plaisir. Parce que c'est toujours une bonne tranche de psychédélisme stoner sympathique là.
Ouais, qui
nous met bien, par les temps qui courent.
Et puis avec deux sorties par an, on peut espérer que le 12e ne va peut-être pas trop tarder. On verra bien.
Bah oui, c'est vrai, peut-être que c'est pas encore épuisé. Hein.
Non.
Très bien, moi je vais aussi enchaîner avec quelque chose qui va être un peu plus rock, oui, c'est rock, c'est clair, mais c'est tellement expérimental ce truc-là que c'est un truc difficile, je trouve, à classer. On pourrait le mettre dans du post-punk, dans du shoegaze. On entend là-dedans un petit peu de Nine Inch Nails, ça peut faire penser aussi à certains passages un peu vénères de Massive Attack. Enfin, quand on l'écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un groupe formé en 2000, enfin dans les années 2000, en tout cas tout début des années 2000, qui s'appelle Have a Nice Life, qui a un petit peu marqué les esprits avec cet album double LP Death Consciousness. Quand je dis marquer les esprits, ça n'a pas été un boom d'emblée. Mais parce que c'est un petit peu difficile d'accès, je vous le cache pas, ça a pas été un gros succès tout de suite. Par contre, ça a eu un succès un petit peu en décalé avec la sortie, puisque ça a été un album qui a été cité ensuite par différentes sources, notamment un peu plus spécialisées, qui ont pris le temps justement de s'immerger un peu dans cet univers que proposait Have a Nice Life dans ce qui est leur premier album. Donc, c'est vrai qu'à l'écoute, on tombe sur quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, mais qui effectivement est un petit peu difficile d'accès, un petit peu comme finalement ce qu'en disent les musiciens eux-mêmes quand on leur parle de l'album, puisqu'ils décrivent cet album comme un concept album, dont je vous ai pris quand même la citation, dont le propos finalement, et je l'ai traduit aussi, le propos est le suivant: l'existence est sombre, l'humour de potence la sous-tend, et parfois se vautrer dans ce paradoxe malade est la meilleure des vengeances.
D'accord.
Voilà, donc
c'est vrai que ça fait écho aussi à cette très belle pochette, puisque c'est Marat dans sa baignoire.
Exactement, la mort de Marat, qui est reprise pour cette pochette. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez dark, d'assez voire un peu gothique. Je crois que les fans de Have a Nice Life, parce que finalement il y a une espèce de culte aussi autour d'eux maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une fanbase très circonscrite,
mais active,
pas du tout circoncise, c'est pas du tout la même chose quand on dit ça.
Donc, même si Marat a été tué à coups de couteau, plus dans le ventre,
c'est ça. C'est pour vous pour essayer de vous présenter un petit peu cet univers très particulier, et puis quoi de mieux pour le présenter que d'écouter donc un morceau extrait de cet album que j'ai dû sélectionner, parce que ça va tellement dans tous les sens que franchement c'est très réducteur.
Il est
à chaque
pas
fois
pas forcément représentatif du
parce que ça va tellement dans tous les sens que ça va être représentatif d'un moment de l'album. Mais je l'ai choisi aussi pour son titre, parce que le titre c'est Waiting for Black Metal Records to Come in the Mail.
Voilà. Oui, c'est
parfait, ça c'est quand même des trucs qui nous arrivent souvent dans les manches disques d'attendre black metal ou pas, mais d'attendre des disques dans la boîte aux lettres.
Ça leur inspire un morceau quand même.
Exactement, donc je vous laisse découvrir ça, et surtout vous allez partir loin, je vous préviens.
Thank you.
Le manche-disque.
De The Dorothy Column, un morceau issu de l'album The Return of the Dorothy Column, qui est en fait, ils sont facétieux, le premier album. Alors je dis il au pluriel, mais en fait c'est quasiment un bonhomme, Vinnie Reilly, assisté certes d'un producteur fameux, Martin Annett, producteur fameux pour ceux qui ont pu se passionner pour ce label qu'est La Factory, qui a également produit notamment A Certain Ratio et surtout les très célèbres Joy Division. Alors ce premier album de Dorothy Column, qui emprunte son nom à la célèbre colonne anarchiste du colonel Buenaventura Durruti, qui s'est illustré durant la guerre d'Espagne, c'est en fait voilà une seule personne, Vinnie Reilly, qui a été contactée par les boss de la Factory, qui voulaient lui proposer d'enregistrer un petit quelque chose. Donc ils se sont retrouvés avec Martin Annett dans un studio qui s'appelait Le Cargo, et Martin Annett avait prévu des machines, des machins, des synthés, des trucs, des séquenceurs et tout ça. Il s'est retrouvé complètement débordé. Et pendant que Vinnie Reilly faisait de la guitare dans son coin, avec voilà ses petites mélodies, ses morceaux, sans trop savoir où il allait, Martin Annett lui bidouillait. Et en fait, au bout d'un moment, Vinnie Reilly s'est dit qu'est-ce qui se passe? On est chacun de notre côté, ça me saoule, je me casse. Donc il est parti. Et Martin Annett s'est dit qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai quelques pistes éparses de guitare, je vais me débrouiller. Et donc là, c'est après toute la magie du producteur qui a bidouillé, qui a rajouté des séquenceurs, des machins. Alors c'est pas toujours évident puisqu'on est sur de la guitare d'un côté et des rythmiques électroniques de l'autre. Donc pour que ça cale niveau tempo et tout ça, c'est pas évident. Mais bon, il a bien bossé et il a mis en forme donc tout ce premier album. Voilà. Et ensuite, il a fallu le préparer et là ils ont eu l'idée, comme la biographie de Guy Debord, de faire une couverture en papier de verre. À la base, l'autobiographie de Guy Debord C'était pour que le livre, quand on le range, abîme ceux de à côté dans la bibliothèque. C'était un petit peu facétieux. Donc ils ont voulu faire pareil. Et on était vraiment au début de la Factory, donc c'était vraiment avec les moyens du bord. Donc c'était les membres des autres groupes du label, comme A Certain Ratio et surtout Joy Division, ouais, qui se sont attelés à fabriquer donc ces pochettes en papier de verre. Ils en ont acheté chez des grossistes.
Les salauds, faire ça à des disques.
Ouais, exactement. Mais alors en fait, finalement, ça a un peu foiré, hein, parce que bon, alors déjà il y a l'anecdote qui fait que c'est Ian Curtis qui avait le plus besoin de thunes et donc qui s'est retrouvé à bosser alors que ses potes du groupe Bernard Summer, Peter Hook, etc. regardaient un film porno à côté et lui se débattait avec une espèce de col grisâtre, etc.
Vendu.
Voilà.
Ian Curtis. Vendu.
Donc il avait besoin de sous, quoi. Mais au final, en fait, la plupart de ceux qui ont eu l'album ont dit que ça tenait pas tant que ça et au bout d'un moment ça tombait en pièces. Donc on peut imaginer effectivement que c'est aujourd'hui assez dur à trouver. Je crois que sur Discogs il y a eu une vente cette année, mais à quelque chose comme 500 €.
D'accord, et c'est du papier de verre.
C'est du papier de verre. Alors, cette très belle édition.
Bon, ami bricoleur, il y a peut-être un coup à faire là.
Ouais.
Je ne vais pas vous encourager aux arnaques sur Discogs, mais.
Alors. Bon, pour le coup, moi j'ai une édition tout à fait récente, mais qui est assez amusante, puisque bon, alors déjà elle est complète, puisqu'ils reprennent un espèce de petit single aussi, qui était à l'époque un flexi-disc avec deux morceaux de Martine Annette, qui avait un peu rallongé la sauce, si je puis dire. Et ils reprennent le concept de papier de verre, mais dans un die-cut qui est le logo de la Factory. Donc il y a un petit peu de papier vert, mais pas que. Donc vous pouvez le ranger sans crainte dans votre
surtout,
collection.
N'oubliez pas de mettre des outer sleeves en PVC épais, comme ça, aucun risque. Voilà. Et si vous vous attelez à faire des fausses pochettes en papier de verre, eh bien n'oubliez pas de masquer tout ce qui peut rapporter à Leroy Merlin ou votre Castorama,
oui,
parce que sinon vous allez avoir une mauvaise note sur Discogs. Je vous raconte même pas si vous avez vendu votre pochette 2 000 €, laissez tomber. Bon, eh bien c'est peut-être l'heure de retrouver notre invité ce soir. Notre invité,
bah oui,
parce que nous avons le plaisir ce soir d'accueillir par téléphone quelqu'un qui compte pour cette émission, puisque il y a un lien de filiation quand même, parce que le Manche Disque, l'idée nous est venue aussi parce qu'avant nous il y a eu d'autres projets radiophoniques, dont notamment le projet qui se rapporte à Vinylerie, qui est un groupe que nous fréquentons tous deux. Hein.
Oui, tout à fait, sur le groupe Facebook.
Un groupe Facebook, je ne l'ai pas précisé, un groupe Facebook spécialisé dans le disque vinyle et aussi avec une certaine couleur aussi musicale, mais pas que. Hein, ça commence, je trouve, ces derniers temps à s'ouvrir un petit peu aux autres choses sans jamais perdre son âme. Et ça, on le doit à son modérateur. Hein,
oui,
son,
très impliqué.
Impliqué. Salut Vince.
Salut.
Bienvenue dans le Manche Disque et merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel.
Je t'en prie.
Donc, comme je disais en introduction, là, on est très content de t'avoir, notamment pour deux raisons. Hein, parce que la première, c'est que déjà, on est tous les deux avec Julien, membre du groupe Facebook Vinylerie, qu'on conseille vraiment à tous les manches disques qui nous écoutent, parce que Dieu sait qu'on en bouffe du disque vinyle sur ce groupe-là, et du bon et du qualitatif. Et puis il y a toujours une ambiance qui reste la même, qui est toujours soignée. Et ça, on te le doit beaucoup parce que tu bosses beaucoup pour ça. On en est tous conscients. Et puis aussi la deuxième raison, c'est parce qu'il y a un lien de filiation, puisque au moment d'imaginer cette émission Le Manche Disque, on s'est beaucoup aussi inspiré d'un autre projet que tu avais avec ton comparse Cyril, qui s'appelait Vinylerie, l'émissionnerie justement. Qui était aussi dédié au disque vinyle. Et ça nous a donné l'idée de faire ça aussi dans notre petit secteur angevin, sur cette radio locale qui est Radio G 101.5, qu'on peut écouter aussi quand on habite un peu plus loin sur Internet et aussi via Mixcloud, où on poste aussi nos podcasts. Voilà, c'est ça, radio-g.fr pour le site Internet. Tu vas bien, Vince?
Bah écoute, super bien, merci. Merci en tout cas pour m'avoir contacté pour cette interview. C'est vraiment sympa. Et puis en même temps, je suis plutôt content parce que je vais peut-être enchaîner par rapport à la naissance de Vinylerie. En fait, moi quand je l'ai mis en place, c'était parce que je me reconnaissais pas du tout dans les groupes dans lesquels j'étais inscrit, et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas lancer l'aventure Vinylerie, on verra bien. Et puis d'un petit groupe qui entre guillemets vivotait, il y a eu une explosion il y a 2 ans, et puis aujourd'hui on est à 2700 membres.
Ouais, quand même.
Donc
quand
effectivement même. On travaillait sur différents projets, et notamment comme tu disais, le Vinylerie, l'émissionnerie, Et là, pour le coup, je suis quand même, je suis super content parce qu'en fait, d'une petite aventure, voilà, qui partait, qui était un peu embryonnaire, et ben, on est carrément dans le dans le délire de voilà, de partager et puis de bah, de faire émerger des projets, quoi, en fait. Donc moi, je suis plutôt content pour vous. Et puis bah, moi, je suis d'autant plus content que voilà, ça fait émerger des projets qui sont aussi intéressants, quoi, en fait.
Ouais, puis nous, on te remercie beaucoup. On remercie aussi Cyril pour tout ça, parce que ça a été... Enfin, nous, on prend beaucoup de plaisir, en tout cas, depuis qu'on s'est lancé. Donc là, c'est la 32e émission, là, aujourd'hui, ouais, qu'on fait, tu vois. Même si c'est dans des conditions un peu particulières, la preuve avec cette interview qu'on aurait préféré en live, voilà, tu aurais fait un petit bout de chemin, peut-être, depuis ta clair. Terre normande, hein, c'est bien ça ? Tu habites la Normandie,
quoi. C'est ça, ouais, en Normandie, ouais. À Fécamp, en bord de mer. Okay. Donc, c'est à côté d'Étretat, pour ceux qui...
D'accord.
Voilà, parce qu'en ce moment, il y a une série, je crois, qui est Lupin, qui se déroule à Étretat, entre autres. Et ben nous, on est juste à côté. Voilà.
D'accord, d'accord, ok. Et puis, bon, ben, c'est sûr que si, si on fait appel à toi, c'est aussi pour ton amour du disque vinyle. Parce que bah, tous les projets que tu fais, je pense qu'ils témoignent de cette passion. Et du coup, c'est vrai que je te pose la question que je pose à tous nos invités, c'est qu'est-ce qui fait qu'en 2021, maintenant, eh bien, on a encore envie de, entre guillemets, de s'emmerder avec ces grosses galettes qui prennent de la place, qui prennent la poussière, qui se rayent, qui sont fragiles, qui coûtent une blinde maintenant, en plus que les CD, encore plus que le dématérialisé. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a cette folie là de s'intéresser et de prendre de la place jusqu'à risquer le divorce parfois?
Ouais, c'est vrai, pour ça, ouais, ça c'est pas faux. Moi je crois sincèrement que bon, déjà il y a une qualité sonore qui est autre, hein, par rapport au streaming et par rapport au CD, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi toute une culture vinyle qui est prépondérante, quoi, en fait. Même s'il y a eu un creux à la fin des années 80, je pense, avec l'arrivée du CD, je pense que c'est l'objet, en fait. Si vous voulez, il y avait une espèce, la voie de la dématérialisation, en fait, je pense qu'il y a à un moment donné à apporter une autre consommation de la musique. Et je pense que le vinyle renaît de ses cendres, c'est qu'en fait les gens ont quand même besoin d'un objet, ont besoin de quelque chose, et le CD, même si ça reste un objet des fois qui peut être beau, hein, parce qu'il y a des artistes qui se prennent bien la tête pour le packaging, ça ne reste que voilà, on pose un CD dans une platine, on appuie sur play et ça fonctionne, alors que le vinyle, je dirais qu'il y a tout un process, quoi, qui est autour. C'est justement, c'est l'objet, c'est d'en prendre soin, c'est de le placer sur sa platine. Alors évidemment, on n'a pas besoin d'avoir des platines de ouf pour avoir un son de qualité, mais voilà, il y a tout un comment dirais-je, un process qui fait qu'on prend un certain plaisir à écouter de la musique. Moi, je suis un peu comparo par rapport à des joueurs de, vous savez, qui jouent sur console, ou ceux qui jouent sur PC. Ceux qui jouent sur console, ils jouent sur console, ils posent le CD, ça joue, alors que quelqu'un qui va jouer au même jeu sur un PC, il va lui falloir une config de fou pour pouvoir apprécier à sa juste valeur le jeu. Bah là, c'est un peu le même genre, je dirais, que le CD ou le streaming, on appuie sur un bouton et ça fonctionne, on a la musique, alors que le vinyle, on est vraiment sur quelque chose où c'est sans fin, quoi, parce que voilà, on... Et puis c'est notre oreille, en fait. C'est voilà, chaque système alors on peut avoir un matériel de fou, mais qui correspond pas forcément à l'oreille de l'un ou de l'autre, quoi, en fait. Donc voilà, c'est plein de critères qui font qu'à un moment donné, une vinyle est un petit peu notre objet à nous, et qui en même temps nous appartient pas, parce que quand on regarde, enfin, en tout cas quand on achète du vinyle d'occasion, en fait le vinyle il a une histoire, quoi, en fait. Il nous a pas appartenu, c'est d'où il est venu, comment se fait-il qu'il est arrivé entre nos mains. Moi j'ai l'exemple d'un album de Lenny Kravitz, qui est un album promo du Brésil. Comment se fait-il qu'un album promo venant du Brésil est arrivé à Fécamp, tu vois? Voilà. Et en vrai, moi ce que je pense, c'est que le vinyle nous appartient pas, parce que bon, on s'en sépare et puis il va aller dans d'autres mains, et puis il y a une espèce de transmission aussi. Moi j'aime beaucoup ça, cet aspect de transmission et de collectif, quoi.
Et d'ailleurs, bah, t'as fait la transition avec la prochaine question, puisque tu parles de l'histoire. Effectivement, je pense que c'est un aspect absolument central de l'objet vinyle. Par rapport à toi, est-ce que ça te renvoie peut-être à un souvenir d'enfance particulier, à peut-être un premier souvenir autour de cet objet?
Oh, j'en ai plein, parce que moi j'ai grandi avec le vinyle. J'avais un papa qui était très vinyle aussi, dans les années 70 et 80. Et Ouais, j'ai un souvenir un peu particulier parce qu'en fait, c'était. Je vais essayer de faire court, mais j'en ai plein de souvenirs. Hein, mais celui-là m'a particulièrement marqué. C'était. Mon père avait acheté la bande originale du film Star Wars à l'époque. Et le film n'était pas encore sorti.
D'accord.
Donc, il avait disque vinyle, alors que le film n'était pas encore sorti. On ne savait pas du tout ce que ça allait devenir. Et en fait, la pochette, c'est un gâteau fold avec des photos à l'intérieur. Et elle me faisait mais flipper de ouf. Dark Vador, on savait pas ce que c'était, qui c'était. Moi, je me souviens d'une photo où on voit qu'il est archi connu de R2-D2 et de C-3PO qui sont dans le désert avec un espèce de squelette de dinosaure derrière en arrière-plan. Bon, enfin voilà, moi ça m'avait fait flipper. Et donc en fait, moi j'avais découvert la musique avant même d'aller voir le film. Donc je vous dis pas, en 77, quand il est sorti en mai 77, moi j'avais 7 ans. Et voilà quoi, c'était le spectacle quoi. C'était enfin de mettre de l'image sur le son que j'avais entendu depuis 2-3 mois, parce que je crois que mon père l'avait récupéré 2-3 mois avant.
Oui, puis se rassurer, découvrir que R2-D2, il est plutôt sympa en fait.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais, carrément. Ouais. En fait, ils étaient gentils, quoi. Puis Dark Vador, bon, il faisait vraiment flipper, quoi.
Oui.
Et donc, ce disque, je l'ai toujours. Voilà. Et il y a peu de temps, pour la petite anecdote, je voulais le repasser, et donc je le repasse sur la platine, et en le rangeant, je me dis, merde, tiens, il y a un truc qui coince. Alors, faut savoir qu'il y avait un poster à l'intérieur.
Ouais.
Qui est toujours dedans, mais il y avait aussi le bon de commande pour pouvoir acheter les t-shirts. Et
ouais.
Ça, je me souvenais pas l'avoir, et en fait, c'est ce qui bloquait quand j'ai voulu rentrer le vinyle. Donc, en fait, le vinyle est même pas complet, il est archi complet parce qu'il y a le poster à l'intérieur et ce fameux bon de commande où on pouvait commander ces fameux t-shirts.
Ah, donc, découvert 40 ans après, quoi, pour
ouais.
le coup.
Pratiquement.
On a d'ici déjà les odeurs de papier vieilli, des choses
qu'on
aime bien dans ces objets-là.
Ouais. Puis ça, voilà, c'est un morceau d'histoire, quoi. De la mienne, et puis un morceau d'histoire cinématographique et musical.
Tout à fait.
Carrément. Et alors, un peu plus loin, peut-être dans les souvenirs, est-ce que tu te rappelles du premier disque vinyle que tu as acheté, Vince ?
Alors, je.
Acheté avec ton argent, je précise. Hein.
Avec mon argent. Alors, c'était pas vraiment un mon argent, parce qu'en fait, avec le CE de mes parents, on avait le droit à des bons, vous savez, pour acheter des trucs.
D'accord.
Et donc, ce fameux bon m'a servi pour acheter. Alors vous allez rire, mais parce que je suis encore une bande originale, parce que j'aime beaucoup les bandes originales, mais qui était la bande originale du film E.T.
Ouais,
d'accord. Donc, ça je me souviens de, voilà, ça a été peut-être, alors je ne dis pas que c'était le premier, mais en tout cas, ouais, dans mes souvenirs, c'était...
Le marquant, quoi.
Ouais. Plutôt marquant, ouais. Et je l'ai toujours, hein, il est toujours là, dans ma discothèque. Il a 38 ans, quoi, lui aussi.
On est encore dans les bandes-sons un peu grandioses, là, un peu symphoniques.
Moi, j'étais bien barré là-dedans. Puis mon père écoutait pas mal, enfin, écoutait même beaucoup Ennio Morricone.
Ouais.
Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi aussi beaucoup avec, alors là, avec une private joke, mais avec le groupe dont on ne prononce pas le nom dans Vinyleri.
Oh oui, oulala. Est-ce qu'on peut ici On n'en a pas passé encore, hein, si tu veux. On est réglo avec Vinyleri, hein, dans le manche-disque. Hein.
mais c'est parce qu'en fait, le concept de Vinyleri, c'est de découvrir. Voilà, c'est de faire découvrir et de partager. Ouais. Je pense que ce groupe-là, tout le monde le connaît, le reconnaît, l'a tordu dans tous les sens. Donc c'est un album, enfin un groupe, et particulièrement un album qui est personnel en gratte sur le groupe. Quoi.
Voilà. Donc, voilà, c'est un album tout noir avec un triangle.
C'est ça, voilà. C'est celui-là même.
Voilà. Ok, et alors pour en venir maintenant à plutôt ton rapport à l'objet, est-ce que toi tu te définirais comme un collectionneur, Vince ?
Ouais, moi ouais.
Ouais, parce que c'est une question toujours délicate, ça.
Ouais,
parce que même si t'en as 4000, 5000, on n'a pas toujours la même réponse avec nos invités. Donc toi, tu dis oui tout de suite.
Ouais, je dis oui tout de suite parce que. Alors j'en ai des récents, hein, effectivement, mais j'en ai des plus anciens. Alors je vais dire que j'ai les deux casquettes. J'ai la casquette consommateur de musique avec les nouveautés qui sortent, etc. Mais. Certains disques que je garderai, peut-être d'autres que je revendrai, mais il y en a vraiment où là je peux définir que c'est vraiment dans la collection, parce que ce sont ce qu'on appelle des OG d'époque, certains qui coûtent un bras, et ceux-là je les garderai, quoi, forcément. Donc là aujourd'hui j'ai une collection Alors ça fait toujours bondir, mais je dois en avoir 1600 aujourd'hui. Je sens que je sais qu'il y en a qui en ont encore beaucoup plus. Mais voilà.
Mais c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Ma femme me dit que c'est déjà beaucoup trop.
Oui, oui. Je...
mais enfin voilà, ouais, je dois en avoir 1600 et dedans, je dois en avoir, ouais, je dirais une bonne moitié qui sont des OG quoi en fait.
Quand même.
Ouais. Voilà, ouais. Dont une pièce. Que je garde jalousement et que j'ai récupéré, mais bon, parce que ça peut nous arriver, mais le tout premier album de Gainsbourg, donc qui était en 25 cm de 1958, et que j'ai chopé chez des personnes âgées, et même moi, je savais même pas que c'était, pour moi, c'était un repress, et en fait, quand j'ai tapé le code, enfin, en tout cas, la référence sur Discogs, je me suis rendu compte que c'était vraiment le premier album de Gainsbourg et que j'avais touché à 3 euros alors qu'il doit taper autour de 150 quoi.
Donc très
malade
très
pour les
joué.
Personnes âgées, tu vois.
Ouais. Non mais comme quoi, voilà, tu vois, ça va aussi dans le sens de la transmission quoi.
C'est ça, ouais carrément, ouais encore, voilà. Ouais. Mais je crois que là, alors après mon fils en fera ce qu'il voudra quand je ne serai plus là, mais pour l'instant il reste chez moi.
Ouais. Oui, sûr. Oui. D'accord. On a bien compris et je pense qu'on te comprend grandement parce que si on l'avait, voilà. Je pense qu'il partirait pas loin non plus. On le prêterait, ça ferait pas partie des vignes qu'on prêterait comme ça à des potes quoi.
Non, celui-là il est sous plastique, enfin bon, il est scellé, voilà, je l'écoute de temps en temps, parce que en plus il passe plutôt pas mal. Mais ouais, voilà, c'est des disques. En tout cas, c'est pas parce que ce sont des OG que je les écoute pas, hein, mais au contraire, parce que le son analogique est quand même bien meilleur que le son numérique, parce que bon, c'est vrai que les vinyles d'aujourd'hui sont quand même sur des masters numériques.
Oui, pour beaucoup.
Ouais, à part quelques artistes qui jouent vraiment le jeu, ouais. qui sont rares, mais en tout cas, ouais, le son analogique est quand même relativement différent quand même.
Ouais. Et alors, en parlant de ta collection, tu nous as choisi un morceau pour clôturer l'émission. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors, en fait, je l'ai choisi ce morceau-là parce que. C'est vraiment, alors c'est pas mon morceau préféré, hein, c'est pas, voilà, mais je trouve que le morceau est intéressant parce que c'est un morceau de Quincy Jones pour la bande originale de The Anderson Tape. Et voilà, il y a une première partie du morceau qui est, et il y a la deuxième partie qui est plutôt intéressante et je pense que des gens vont reconnaître un morceau qui est super connu. Qui a été interprété par Donny Hathaway, pour ne pas le citer, et qui a été repris par Jesto Funk, mais pourtant bon, on connaît Quincy Jones pour ce bon voilà qui était un génie, enfin qui était un génie au niveau musical, mais là ce qui est bizarre c'est que voilà il a plaqué l'île de basse qui est ultra connue. Donc en fait j'ai choisi ce morceau là parce que voilà c'est aussi l'idée de Vinyl Ring, c'est qu'à un moment donné on puisse se dire, bah tiens, ouais, je connais ce morceau-là, mais ah bah oui, mais avant, il y avait ce morceau-là. Ouais. Et en fait, la base, c'est celui-là, quoi. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce morceau.
Eh bah super, on a hâte de l'entendre. On te remercie encore une fois pour ta présence. Et on va remercier aussi nos auditeurs de nous avoir écoutés. On leur dit à dans 15 jours. Et puis, tu avais un petit message à passer, je crois, Vince, avant qu'on lance le morceau.
Ouais, à Cyril, justement, mon acolyte de vinylerie, les missionneries. Qui a besoin, je pense, aujourd'hui de beaucoup d'ondes positives, voilà, pour lui. Donc, je l'embrasse fort et je pense vraiment beaucoup à lui et tous ceux qui le connaissent, je pense qu'ils se raccorderont à moi pour lui transmettre tout mon amour, pas mon amitié, mon amour. Voilà.
Très bien. Bah,
écoute, nous, on lui envoie aussi toutes les bonnes ondes qu'on peut lui envoyer et puis on pense bien à lui. Salut Vince.
Salut.
À plus.
À plus.